des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Cube Radio.
Un autre épisode des Antipodes de la lutte. Pat Laprade, K.R., Kevin Raphaël.
No lie, je faisais une sieste. No lie.
C'est correct.
Je faisais une sieste, je m'étais mis un alarme. J'ai go through l'alarme. Et je suis là. So, regardez,
c'est important de faire des siestes.
Hey, non, man, la madame à la boxe, j'avais une nouvelle madame aujourd'hui, elle a essayé de me tuer, là. J'étais comme, pour de vrai, c'est quoi, j'ai un bounty sur ma tête, puis je sais pas, là, c'est quoi ton problème, mais t'es vraiment fine, fait que
ça. Ben, justement, je voulais te parler de ça. Hey, où on peut nous écouter, Kev?
Cube, Stitcher, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, laissez-nous 5 Star, Frog, Splash, TV, Sport, laissez-nous des commentaires. Vous pouvez nous écouter partout, on peut écouter les podcasts. Sinon, faut acheter du gear, on l'annonce-tu maintenant, le nouveau t-shirt, ou on attend mercredi?
Ben non, on peut l'annoncer maintenant en prévision de mercredi-jeudi, parce que dans le fond, on va inciter les gens à venir nous écouter, parce que ce jeudi, ben nous, vous savez, on tourne mercredi, mais ce jeudi. Et là, Kev, je me fais moi-même un disclaimer. Ça se peut que ma voix ait des chutes de pression, parce que depuis samedi, j'ai retrouvé ma voix à 100%. On était tous les deux au Centre Bell, fait que j'ai pas retrouvé ma voix encore, d'autant plus que, tu sais, on avait nos masques. Toi, je sais pas où t'étais, si t'avais un masque à 100%.
Oh, ouais, j'avais mon masque 100%.
Bon, ben moi, j'étais, puis en plus, j'étais dans la foule, fait que c'était très bruyant. Et quand t'as un masque, faut que tu parles plus fort pour que la personne t'entende comme il faut à côté de toi. Fait que même quand je parlais à mon ami, c'était comme, tu sais, il fallait vraiment que je m'époumonne. Donc, ma voix est pas revenue à 100%, mais quel match. Et là, le pire, c'est qu'on fait ça aujourd'hui, il est même pas 4 heures. Puis on sait tout, tu sais, là, on fait ça, puis on sait pas si le Canadien est encore en série ou pas, là.
Mais c'est regarde. Ça le pire. Moi, je vais mettre ça comme ça, là. On va regarder le t-shirt pour mercredi. On va créer une petite anticipation. On va avoir un nouveau t-shirt.
Okay, mais
on va
l'annoncer mercredi. Ce qu'il faut dire jeudi, c'est qu'on va avoir notre déconfinement Mania 2, là.
Yeah. Enfin, mais faut que je t'envoie un texto. J'ai oublié de t'envoyer un texto un matin, là.
Qui?
De moi. Il faut mettre des règlements, là.
Mais on en a parlé la semaine passée. C'est-à-dire qu'il faut juste s'entendre sur un nombre de matchs.
Ouais, mettons
mais
5.
Ben non, 5, c'est une carte, là. Une carte, c'est 8 matchs, Kev. Je te le dis, okay, là, j'en ai booké des choses. C'est 8 matchs.
NXT, en fait, combien de takeovers à 5 matchs? Arrête, là.
Je te dis pas, je me fous d'NXT. Hey. C'est 8 matchs.
Okay, ben, 8 matchs. Non, dis-moi pas que c'est une carte, c'est 8 matchs. NXT, en fait, 1 million de takeovers à 5 matchs. Si tu me dis qu'on fait 8 matchs, ça me dérange pas.
Ben oui, mais WrestleMania, en fait, 14.
Dis-moi pas que ça existe pas, là. Peut-être, il me parle comme si ça existe pas. Takeovers, ils ont built là-dessus. Bon, mais mettons,
correct.
On fait 8 matchs.
On fait 8 matchs.
OK, mais on se textera pour les règles, là, parce que... Je sais
ça. Ça va pas bien, parce que là, on s'obstine déjà, puis on a pas une règle. Mais pour vrai, faut juste établir les règles. Mais c'est juste une carte, dans le fond. C'est 8 matchs, le nombre de lutteurs que tu veux, puis le nombre
Je comprends, mais ça serait bien plus fun si on dit, mettons, il faut minimum un tag match, minimum un single. T'sais, sinon, on va juste faire un... Tu sais, on se textera ça tantôt, là.
OK, je suis à l'aise avec déterminer
un free for all, là.
Ça pourrait être un free for all. OK, je suis à l'aise avec ça.
Ça, c'est
mais on va avoir un déconfinement Mania 2 dans la joie et l'allégresse. Je le souhaite. Hein? Je le souhaite. parce que la dernière fois, il y a des auditeurs qui ont été retournés.
Il y en a vraiment beaucoup qui sont retournés.
Moi, j'assume pas. Moi, s'il y a un podcast que j'assume pas, c'est celui-là.
Ah, moi, je l'assume, là. Moi, je l'assume à ça. Donc, on va l'annoncer, mercredi, là. Vous entendrez jeudi, naturellement. Donc, sur le prochain podcast, vous allez entendre, le nouveau t-shirt. Il est vraiment malade. C'est mon préféré de tous les t-shirts.
Ah, pour vrai?
C'est mon préféré de tous les t-shirts. Ils ont préféré le Tully T-shirt. Ils préfèrent aussi à Catherine le Tully T-shirt. Donc,
c'est le travail de notre ami Éric Lamontagne. Ouais, mais bravo, c'est mon idée de design à moi. Donc,
c'est un travail d'équipe.
Donc, je suis bien content. Mais sans restriction cette semaine, Kev, ça ressemble à quoi?
On continue les playoffs après match. Donc, Pat Langlois du Centre Bell. On avait Adib du Centre Bell. Puis aujourd'hui, c'est Elisabeth Manta. Vraiment, vraiment le fun. Là.
Elle a pas de fil, l'arbitre.
La sœur à Anthony, mais okay. Je vais commencer à dire Anthony, c'est le frère à Elisabeth, parce qu'Elisabeth, c'est une star, man. Pas de fil, t'es là, puis elle parle des autant des répartiteurs, répartitrices du 9-1-1, parce qu'elle a fait cette job-là, ou elle a fait cette job-là avec en même temps qu'elle est arbitre. Elle parle de qu'est-ce qu'elle s'est fait traiter sur la patinoire, elle parle de des championnats du monde qui étaient annulés, elle parle de tellement de choses. Allez écouter ça, c'est bon pour l'âme. Puis ton livre, 8e merveille du monde, disponible partout en librairie.
Ouais, mais j'allais dire, ça veut dire que c'est la sœur d'Anthony Manta, c'est la petite fille de l'ancien joueur du Canadien André Pronovo. Je sais pas si tu savais ça. Le grand-père d'Anthony a joué dans la Ligue nationale.
Yeah.
Ben, c'est tout. C'est juste ça que je voulais dire. Je voulais juste plugger que je connaissais le grand-père, c'est tout.
Fucking guy.
Toi, tu fais des entrevues avec les petits-enfants. Moi, j'ai fait une entrevue avec le grand-père pour mon livre sur Butch Bouchard. Chacun nos entrevues dans la famille, on se chicanera pas.
Yo!
Kev, on fait un spécial aujourd'hui parce que, on va être honnête, on s'en allait pas en faire un podcast aujourd'hui à cause de la game du Canadien, partie 7. Évidemment, on va être rivé devant nos téléviseurs et toi et les réseaux sociaux aussi, là, moi aussi d'ailleurs. Et puis, mais on avait du temps, puis on s'est dit, ben on pourrait au moins faire uniquement une revue de Double or Nothing qu'on a tous les deux écouté hier et garder le reste, les nouvelles et le reste de nos des choses qu'on va avoir à dire.
Mais
le gros, ça va être le dernier. Oui, parce que ça va être le dernier mardi avec un podcast, parce que pour l'été, on vous le dit, on vous le répète, on prend les mardis de congé, on va garder uniquement les jeudis. Donc, mais Double or Nothing, c'était gros, puis il fallait en parler. T'as-tu aimé le show, de façon générale, avant qu'on aille match par match?
De façon générale, j'ai adoré le show. C'était, pour moi, un des meilleurs shows de lutte que j'ai jamais vu de ma vie. J'irais à cette jusqu'à ce niveau-là. La fin, elle a pour moi pas affecté mon appréciation du show complet. Puis il y a un seul match dans la carte que j'ai trouvé moins bon ou que j'ai moins aimé. Sinon, tout pour moi était au niveau. C'est sûr qu'on va nitpick un peu parce que c'est ça notre job, mais tout était au niveau pour moi.
Le pire, c'est que je suis même pas sûr c'est à la fin de l'année. Premièrement, je partage grandement ce que tu viens de dire là. J'ai adoré le show, moi aussi. Par contre, je suis même pas sûr c'est à la fin de l'année. Il y a un match dans ce show-là qui va être voté match de l'année. Mais le show comme tel, le show dans l'ensemble... je suis pas sûr, moi. Je suis vraiment pas sûr. Mais le show dans l'ensemble... était vraiment sur la coche. Et c'est ça qui fait la force d'un bon show. Tu sais, un bon show, c'est pas juste avoir un match 12 étoiles, tu comprends? C'est d'avoir plusieurs bons matchs.
Je suis pas d'accord.
Plusieurs matchs excellents.
OK, so, de tous les matchs qu'on a vus à Double or Nothing, tous les matchs qu'on a vus, y a pas un match qui bat, à part celui qu'on va parler, mais il y avait
plus. Moi, je suis pas sûr qu'il y a un match là-dedans qui bat ce qui s'est fait au Tokyo Dome au début de l'année. Et toi, tu le
OK, je mais mettons en Amérique du Nord. En Amérique du Nord, c'est toutes les meilleurs matchs étaient sur la carte de il y a pas WrestleMania, il y a pas un match qui bat qu'est-ce qu'on a vu là.
Pour moi, AEW, il y a des matchs à AEW qui ont été meilleurs que des matchs que j'ai vus sur cette carte-là.
OK.
Durant l'année 2020.
OK, mais qu'est-ce que je veux dire? OK, je comprends ce que tu veux dire. OK. Allons-y d'abord.
Mais c'est pas ça n'empêche pas
le show, c'est intéressant. Comprends?
C'est pour moi un bon show, c'est pas juste quand t'as un match mettons qui est 10 sur 10 puis les autres c'est du 5-6. Un bon show pour moi c'est quand tout le show joue mettons entre 6 et 8-9, mais ça veut pas dire que tu vas avoir ce match là que les gens vont se souvenir dans 20 ans, mais tu as eu un show équilibré et qui a livré sur une grosse partie de la soirée. Fait que pour moi, j'ai pas le choix de dire que j'ai adoré le show. Il y a eu des moments. Il y a eu des moments un peu moins, oui. Bon, t'as écouté le buy-in avec Serenity et Rio.
Ben oui, j'ai pas écouté sur le coup, mais j'ai été de réécouter ce matin parce que les gens, il y a trop de gens qui parlaient de ce match-là. Je l'ai écouté ce matin. J'ai dit, tabarnouche, c'était for free, ça? Si tu mets ce match-là for free, imagine ta carte, man.
Ben, c'est ça le but aussi. Le but, c'est d'attirer des gens
WWE font pas ça. WWE, le pre-show, là, c'est shit.
Oh, c'est pas vrai, dis pas ça. Souvent, on est surpris de la qualité des combats dans le pre-show.
Pat, sur combien... Souvent, combien de shows du pre-show que tu te rappelles? C'est sûr qu'on se rappelle. Dans 3 ans, là, on va se rappeler du pre-show entre Serena Deeves et Rio.
Il y a eu des matchs avec Buddy Murphy, entre autres, dans les pre-shows, qu'on a fait comme « Wow, que c'était bon! » Pourquoi c'était pas sa carte principale?
Ouais, mais c'était pas le même niveau que qu'est-ce qu'on a vu, là. Je dirais pas main event parce qu'il y a tellement de bons lutteurs à AEW puis les main events sont tellement bons puis
mais c'était meilleur que le moins bon match sur la carte de Double or Nothing. Ça, il y a pas de ça.
100%. 100%.
Et de loin, là. Oui, 100%. Absolument. Serena Deeb qui a battu Rio pour garder son titre de la féminin de la NWA. Puis tu sais, j'aimais ça parce que tu sais, il y avait une ambiance différente. T'sais, c'est un pay-per-view, mais en même temps, tu sais, il y avait encore du soleil. Tu sais, c'était il y a une partie qui est à l'extérieur. Tu sais, il y avait un look qui était vraiment cool pour ce match-là. Puis écoute, Rio d'ailleurs, elle est en train, si c'est pas déjà fait, de déménager là aux États-Unis. Donc, on va la voir plus souvent parce que elle aura pu là à voyager entre le Japon et les États-Unis. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle pour AEW puis pour les fans également. Mais quel combat qu'ils nous ont livré ces deux-là. Écoute, Serena Deeb, une vétérane qui a vraiment livré la marchandise puis qui s'est... les deux ont vraiment bien... bien travaillé ensemble. Là. C'était si vous avez manqué le buy-in, vous avez dit, c'est juste le buy-in, trouvez une façon de le réécouter, ça vaut vraiment la peine.
Non, vraiment quelque chose de spécial. Puis Serena Deeb, 35 ans, puis elle était plus assez forte pour être à WWE, selon certains. Là. Puis là, elle donne dans le top 5 des meilleurs matchs féminins de la AEW, Serena Deeb donne avoir 3.
Je sais pas, elle n'a-tu tant que ça?
Ben, elle en a quand même beaucoup. Le Thunder Rosa, une coupe. Et elle a fait un match avec Ty Conti qui était excellent.
Red Velvet aussi avait été bon.
Red Velvet et Hikaru Shida.
Mais de là à dire des 5 meilleurs matchs de AEW féminin, je suis peut-être pas prête à... Celui-là, oui. Là, celui-là, définitivement.
Mais mettons, si on passe vite aux 5 meilleurs matchs féminins de AEW, il y a le match qu'on va parler tantôt, Britt Baker et Shida.
Non, tu vois, moi, je le mets pas là-dedans.
Il est même pas dans le top 5?
Non. OK. Britt est Thunder Rosa est là-dedans.
Ouais.
Il y a des matchs avec Rio l'année passée, dans la première année des EW.
Mais peut-être que je suis trop high sur ce match-là, mais c'est ce match-là pour moi.
Mais ce match-là, lui, je suis d'accord. Les autres matchs de Serena Deeb, elle a fait d'excellents matchs. Je suis pas sûr dans le top 5, mais ce match-là, oui, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Premier match de la soirée, on a ouvert avec Adam Page qui a battu Brian Cage.
Quel match! Digne du G1.
Tellement une belle façon de partir le show. Ça a été... j'ai adoré ce match-là du début à la fin. Il y a rien que j'ai pas aimé dans ce match-là. Puis... tu sais, même au niveau storyline, tu sais, parce que clairement, ça va mener à probablement la sortie de Brian Cage de Team Taz, mais c'est correct. Tu sais, il fallait que ça amène à quelque part aussi. J'ai adoré ça. Puis c'est justement, c'est le fait que Team Taz soit intervenu qui a mené, dans le fond, à la défaite de Brian Cage, tu sais. Donc, clairement, cette histoire-là est pas terminée, mais le match, ils ont livré, là, big time.
Brian Cage, vous savez à quel point j'étais pas high sur petit patinet. Vous savez.
Bon, tu peux dire gros patinet, là.
Gros patinet. Puis quand il est rentré avec son outfit,
ouais.
J'ai fait, by the way, là, on avait le droit d'être trois foyers dans la maison. On a checké.
Qu'est-ce que tu fais trois foyers dans la maison?
On avait le droit d'être, tu sais, parce que la semaine dernière, tu m'as dit, on pouvait pas être trois foyers.
Tu peux pas être trois foyers.
Oui, tu peux.
Non.
Tu à peux l'intérieur, être trois foyers jusqu'à huit.
À l'extérieur, dans une cour à l'extérieur, les rassemblements à l'intérieur sont toujours interdits.
Mais
ça, je te le jure.
Yo, d'abord, j'ai mal compris. Mais non, mais c'est fucking compliqué, là. Tu me dis ça sur le podcast. Là, moi, je cherche sur l'ordinateur. Chaque information que je cherche est réfutée deux secondes après avec une autre information. Je comprends rien.
Imagine sur les terrasses. Moi, j'ai été sur une terrasse en fin de semaine. Et imagine, t'as le droit d'être deux personnes de deux adresses différentes sur la même table. Mais si t'habites toutes à la même adresse, t'as le droit d'être à la même table. Par contre, t'as pas le droit, mettons, d'être un couple puis d'être un autre couple, même si c'est juste deux adresses, à une même table, parce que là, ça devient quatre personnes. Puis le maximum, c'est deux de deux adresses différentes. Ça te prend un bac en actuariat pour comprendre
où,
puis comment aller prendre une bière en ce moment. Mais c'est ouvert. Fait que, tu sais.
J'ai vu Brian Cage rentrer et
oui.
Tout de suite, j'ai fait un pop son outfit. Moi, là, quand quelqu'un, là, il dress up, comme on dit, là, quand il s'habille ou s'arrange pour un événement. Moi, juste quand tu check mes pieds, puis si mon soulier est fire, ça veut dire que je te respecte et je respecte ton émission de télé, je respecte ton événement. Je dis ça à tout le monde. Si tu check mes pieds, puis mon soulier est fire, là, c'est que j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour toi. Et puis, je l'ai vu rentrer, j'ai fait « Wow! » J'ai vu Adam Page rentrer, la foule qui crie « Cowboy shit, cowboy shit, cowboy shit! » Moi, je suis là, puis je vis des émotions. Là. Je dirais pas au même niveau qu'au Centre Bell, mais au Centre Bell, j'ai comme vécu plein d'émotions à l'espace de 30 minutes. Et là, j'y vivais tous à l'espace de genre 10 minutes, parce que ça te frappe dans le visage.
La foule, elle était en feu, là. Elle voulait voir de la lutte, cette foule-là. Il était 5000, là. Et mon Dieu. Puis, as-tu vu le stage? Le look était différent aussi. Ouais. C'était pas le look de Dynamite. T'sais, il y avait mis un stage pour des fans. Il y avait beaucoup plus de fans dans les premières rangées. Il avait gardé un coin pour les workers. Puis, ils l'ont utilisé à outrance, d'ailleurs, ce coin-là, pour les workers. Mais au moins, tu sais, il y avait un feel différent. Là. C'était pas le même look que Dynamite. Ça aussi, j'ai appris.
Le Urukun Rana du troisième câble.
Ouais.
De Adam Page. J'ai tellement pop. Brian Cage a tellement bien. Puis, vous savez, je suis pas un gros fan. Mais il a tellement bien fait les choses qu'il fait bien. Là, c'est sûr qu'il y a certaines manœuvres que j'étais comme, bro, pourquoi tu me fais ça avec le 16 que t'as? Mais bon, ça, je peux pas re-rentrer là-dedans. Mais overall, le match était excellent. Puis la fin, j'ai adoré quand il y a la confrontation, puis le petit patinet, lui, c'est un vrai petit patinet.
Starks,
il pointe son cou. Il dit, tu veux pas? Puis tout le monde comprend, là. Tout le monde comprend, ouais. C'est quoi? Tu respectes tes fans. Moi, là, ce match-là, c'est un 4 étoiles, puis même 4.5 étoiles. Overachieved, ce match-là, pour moi. Là.
T'as raison. C'était une belle façon de commencer le show. Deuxième match, les Young Bucks qui ont gardé leur titre par équipe en défaisant John Moxley et Eddie Kingston.
Probablement que Moxley a aussi attrapé le COVID en rentrant par la foule. Yo, ces gars-là, là, l'énergie qu'ils avaient, là, c'était... je sais pas comment le mettre, là. Tu sais, là, c'est manger un coup de poing en face, leur énergie, là. Tu sais, tu l'écoutes, puis ça te frappe. Bon, quand il est rentré, puis il a lancé la chaise, là, puis en plus, je venais d'écouter Dark Side of the Ring, Bruiser Brody.
Ouais.
Puis Bruiser Brody faisait ça quand il rentrait. Lançait les chaises. Puis là, une journée après, je vois John Moxley lancer la chaise. Puis...
Et là, il est rentré sur Wall Thing, la version Major League.
Il prend la bière dans les mains de la fille, bro, puis il cale la bière, puis il se pète la bière sur la tête. J'ai dit, ça, c'est that Stone Cold Steve Austin shit, là. Ça,
ouais,
là,
ouais,
il
ouais.
Aurait pu pas avoir de match. Il y avait déjà eu 5/5 dans ma tête, là. Puis Eddie Kingston, c'est la première fois qu'il était devant une foule. La réaction qu'Eddie Kingston a eue, guys, wow!
Ouais. Ouais. Non, c'était extraordinaire. Je veux que tu me parles des Jordans, des Young Bucks.
Ouais, je les ai trouvés. En plus, c'est les Off-White Jordan 1 UNC. Ça coûte 3000... ben, 4000, ben, c'est quand même beaucoup. C'est 4000 piastres, genre, au début, là. C'est 4000 piastres, là, sans, genre, pis ça, c'est pour les 16 des petits pieds, là. Là, je, pendant que tu parles du match, je vais aller checker un 12 pour moi, ça donne quoi? Un 12.
Moi, je parle du 13. Tu checkeras un 13.
Je vais checker pour le 13 aussi.
Mais oui, écoute, le match a été bon. Un 20 minutes, 21 minutes de match au final. Moxley qui a saigné, évidemment. Bon, c'est correct, là, vous savez mon opinion sur le sang et AEW. C'était un pay-per-view. C'est correct quand ça se passe en pay-per-view. C'est juste qu'à Dynamite, je trouve des fois ça arrive trop souvent.
12 oui, 3325 US.
OK.
En canadien, c'est là 5000 maintenant. Hein? Puis 13 2714.
Mon Dieu, ça coûte moins cher des 13 que des 12.
Ben souvent, parce que dans le fond, c'est des gens qui les ont, qui les vendent. Fait, peut-être que le gars va se débarrasser de son 13. Mais je te dis, là, quand je les ai vus rentrer avec ça, là, j'avais le goût de leur cracher dans la face, tout avec ses nouveaux cheveux. Avec ses nouveaux cheveux, il a l'air de boys band. Mais boys band, il est pauvre.
Avec les boucles d'oreilles, un peu comme les boucles d'oreilles qui me faisaient penser à Jesse le Body Ventura au début des années 80.
Juste la promo. Vas-y.
Tu vois qu'il s'inspire, là, tu vois qu'il s'inspire de tag team, heel,
ouais.
Tu sais, début 80, ou tu sais, de, ils ont plein d'inspiration, puis ils mélangent ça ensemble, puis ça leur fait un look super unique.
Puis la promo, là, quand il dit, vous savez rien, vous connaissez rien aux souliers, allez sur StockX, j'ai pop, c'est là qu'on achète les souliers, tu sais, j'étais comme, waouh, ces gars-là, ils ont trouvé, tu sais, back in the days, mettons, là, dans l'ancien temps, là, quelqu'un voulait voler le Million Dollar Championship de Million Dollar Man parce que ça avait une valeur. Il voulait voler telle affaire. Quand tu rentres chez des gens, tu veux voler des bijoux. Maintenant, tu rentres chez des gens, prends les souliers parce que tu sais pas, là. Les gars, ils ont réussi à monter un feud sur des shoes. Des
diables
qui sont sortis depuis longtemps.
Oui, non, puis en plus, moi, c'est pas ça que je trouve le plus formidable, c'est qu'ils parlent, ça parle aux gens de leur génération.
Exact.
Tu comprends? Quelqu'un, là, ben regarde, même moi, je le comprenais pas, mais moi c'est pas de ma génération, c'est que je suis pas un gars de sneakers, tu sais, fait que c'est pas pareil.
On était quand même fire au Centre Bell, là.
Oui, ben là, écoute.
Ça, c'est nice.
Tu t'en vas au Centre Bell, il y a 2500 personnes, premier match. Si tu sors pas tes Jordan cette journée-là,
yo, quand t'as mis,
je te dirai pas des Jordan.
Quand t'as mis le sondage, là, j'ai failli lancer mon téléphone. Là. Qu'est-ce que je mets entre le chandail bleu et le chandail rouge? Bro, tu sais pas que le chandail bleu est pas bon pour nous? Si les gens ont des chandails bleus, là, foutez ça dans votre... J'ai un chandail bleu du Canadien, il est même pas dans ma collection de jersey. Il est même pas là pendant les playoffs. Je vais le remettre après les playoffs. Pendant les playoffs, il est même pas là. C'est en créole, on dit Madichon. C'est un Madichon, ce chandail-là. Fuck that. Puis, by the way, pour les Diars, je viens de me rappeler un certain joueur québécois m'a texté. Puis, il en a parlé sur le podcast, puis il m'a texté il y a pas longtemps. Puis, je dis pas parce qu'il a vu les Young Bucks le porter. Moi, je pense qu'il l'a vu dans la story, sa restriction. Mais, un jeune joueur québécois qui joue à Anaheim m'a dit, Kev, finalement, t'as-tu la plug pour les Diars? Puis moi, je pense que c'est parce qu'il a vu Young Bucks. Parce que, pourquoi qu'il me texte?
Qu'est-ce que t'as répondu à Maxime Comtois? Tu sais, j'ai un joueur québécois qui joue à Anaheim.
J'ai envoyé le lien StockX. OK, so, mais ce match-là, pour moi, c'est textbook tag team. Le 1-2-3 du tag team, à part quelques problèmes. Les arbitres, c'est un problème majeur. Là, les arbitres de AEW, c'est une bande d'imbéciles dans le show, pas dans la vie, dans le show. Puis, à un moment donné, il faut que ça arrête. Ça l'affecte mon appréciation du match. Faites un tornado match au pire. Mais il y a des règlements pour les respecter. C'est tout.
Non, mais ça, je suis d'accord. À un moment donné, l'arbitre a eu l'air un peu plus cabochon. Clairement, il avait vu, ben oui, tu sais, puis je me rappelle pas si c'est dans ce match-là ou dans un autre match, mais l'arbitre s'est retourné, et clairement, tu l'as vu, t'as vu le lutteur se débarrasser de la ceinture qu'il avait utilisée. Et j'ai comme fait, man, c'est sûr qu'il l'a vu. Je m'avais plus dans quel match j'étais. Mais j'ai comme fait, c'est sûr qu'il l'a vu. Par contre, c'est pas parce que tu vois un gars se débarrasser de la ceinture qu'il l'a nécessairement utilisé. Tu l'as pas vu l'utiliser, la ceinture. Fait que, tu sais, il y a toujours tu sais, tu peux toujours essayer de le défendre.
Je vais te dire le spot, moi, que j'ai haï. Sur là, la première arrêt au sol, l'arbitre la voit. Ça y prend 3 minutes. Donner l'arrêt au sol au gars dehors. Ça y prend 3 minutes de donner l'arrêt au sol au gars dehors. Jackson utilise la deuxième, il voit la au sol, et après, il a pitch à terre. So, comment ça, tu pouvais pas faire ça la première fois?
Ouais, non, je suis d'accord, c'est vrai, c'était avec l'air au sol dans ce match-là. Moi, je vais peut-être te surprendre, mais à la fin de ce combat-là, j'avais plus aimé Paige et Cage que ce match-là. Peut-être parce que le premier match m'a tellement surpris, peut-être que je m'attendais pas à ce que ça soit si bon. Mais puis je dis pas que c'était pas un bon match par équipe, tu comprends? C'est juste que j'ai comme fait Colin, c'était super bon, mais je pense que j'ai encore mieux aimé Cage et Paige. Donc ça fait juste, tu sais, c'est un testament que le premier match a vraiment livré. Ouais. Mais bon, en même temps, ce que j'ai à reprocher à AEW, c'est le pacing du début du show. C'est-à-dire que là, t'es parti avec deux gros matchs. Puis ensuite, t'as été vers deux gros matchs, puis tu sais, l'entrée de Moxley où tout le monde chante, on dirait que t'es dans un concert. Et là, ensuite, tu y vas avec la bataille royale. Puis bon, on va y arriver vers la bataille royale, mais c'est Jungle Boy qui gagne. Donc, t'as encore l'esprit festif parce que tout le monde chante la tune à Jungle Boy. Le reste du show, jusqu'à la demi-finale, moi, je trouve que ça s'est ressenti dans la foule. Ça s'est ressenti dans la foule que on était parti vraiment très, très fort.
Il n'y a pas vraiment eu de bathroom break, là.
Ben, moi, j'aurais mis Cody et Ogogo deuxième match. Ça a été le match, selon moi, le plus faible de la carte. Et je pense que ça aurait mérité, ça aurait permis aux gens, après le premier match qui a tellement livré, d'être, tu sais, mais en même temps, peut-être qu'ils pensaient pas que le premier match livrait autant, mais en même temps, c'est ton premier match. Donc, t'espères quelque chose de ce match-là. Puis tu sais que le match par équipe va livrer aussi. Fait que, à quelque part, j'ai comme l'impression que le pacing a affecté un peu la réaction de la foule par la suite. Parlons-en du troisième match, Casino Battle Royale, pour avoir une chance au titre des AEW. Il y a eu deux annonces.
Moi, ce match-là, il est 5 sur 5. Ma bad, là.
Le tag match, là,
5 sur 5. Ma bad, là.
The Blade qui a été remplacé par Serpentico et QT Marshall qui a été remplacé par Aaron Solo. QT qui était là pourtant, mais qui a pas pu lutter. Et Paul White avait des commentaires avec la gang, avec les autres commentateurs. Jungle Boy qui a gagné. Écoute, bon, l'histoire de ce match-là, ben évidemment, c'est le Joker qui était Leo Rush. Donc, Leo Rush qui a pas de contrat avec AEW. Il y a un contrat avec New Japan, Leo Rush. Donc, c'est pour ça que AEW peut l'utiliser. Et, ben évidemment, t'as eu le rap de Max Caster, là.
Yo, Max Caster.
J'en ai pas parlé la semaine dernière, là, mais quand il a fait son rap sur John Moxley, puis qu'il a dit de Renee Paquette qu'elle pouvait lui donner des oral sessions, wow, le gars, là, il va all out, là, tu sais, il est tout là, puis moi, j'ai adoré que... Ouais, vas-y.
Son rap est excellent, puis il y a un détail que les gens ont peut-être pas catché, je sais pas si c'est fait par exprès.
Quoi?
Il fait son rap, puis à un moment donné, il dit à Dustin, « Look at me, Dustin, look at me, look at me, Dustin! » Une semaine après que Cedric Alexander se fait roaster parce qu'il arrêtait pas de dire look at me Shelton, look at me, et ça là, j'ai tellement pop, je sais pas si c'est exprès. Si c'est un lien, c'est le genre de deep cut que j'aime. Ce kid là, c'est une star.
Puis le pire, c'est que le fait que Dustin a pris du temps avant de le regarder, ça, tu sais, il était pas sur le bon beat, fait que il était pour prendre son flow, il était là, yo, yo. Yo, yo, puis là, tu sais, il fallait qu'il retrouve la bonne place pour partir son
rap. Seul truc, j'enlèverais le fait du bruit à gauche, fait du bruit à droite, everybody scream. Ça, je l'enlèverais, t'es un heel.
Oui, parce que ça c'est heel, mais c'est pas lui qui dit ça. C'est son partner qui dit ça, non?
Non, c'est lui qui l'a dit. C'est lui qui l'a dit. C'est vrai, c'est lui qui a fini son rap. Fait que c'est la seule affaire que je changerais.
Ouais, effectivement. Écoute, ça a été, c'est comme une bataille royale de ce type-là. Il s'est pas passé grand-chose avant la fin. Mais on a raconté une histoire, c'est-à-dire qu'il y avait à la fin Matt Hardy, Jungle Boy et je le dirais pas, et Christian Cage. Celui qu'on pensait qu'il gagnait, Christian Cage. Et là, clairement...
Moi, j'avais dit que je voulais que Jungle Boy gagne, j'avais dit sur le podcast, je voulais que Jungle Boy gagne pour avoir le match face à Kenny Omega.
Ben, en fait, nous, on avait dit, si c'est pas Christian Cage, c'est Jungle Boy. C'est les deux noms qu'on a sortis. Ouais. C'est les deux noms qui restaient à la toute fin. Et puis, puis c'est ça. T'sais. Puis là, ben tu vas avoir clairement une histoire avec Private Party et Leo Rush. Tu sais, t'as une histoire qui va se former autour de ça. Parce
je sais
que
pas
c'est
si
un
j'ai
peu
besoin
l'histoire
de cette
qu'on
a. Là.
Ben, moi, je pense que oui. Je pense que ça pourrait... Leo Rush a été excellent, je trouve, dans ce match-là.
Je dis pas que Leo Rush est pas excellent, juste que Private Party sont inutiles en ce moment. Là.
Ben je comprends, mais ça serait une belle façon de les ramener. Ça fait un bout qu'on les a pas vus à Dynamite. J'ai adoré l'habillement de Penta en Joker, qui était habillé en Joker. T'as remarqué? Non?
Ben oui. Penta a eu un des plus gros pops.
Ben oui, absolument.
Un des plus gros pops, des gens chantaient Cerro, Mierdo, c'était fou, là.
Ça, c'était vraiment, vraiment cool. Et puis voilà, ben, Jungle Boy qui a éliminé Christian à la fin, et la foule qui a tout simplement là, capoté, qui a rechanté. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que vers la fin du match, la foule a chanté la tune à Jungle Boy pour l'encourager. Et ça, c'est ça qui va lever. Ça va devenir le cri de ralliement là, pour Jungle Boy. Tu sais, le rally cap. Là. Quand tu veux qu'il revienne dans le match, tu commences à chanter sa tune. Et écoute, pour vrai, là-dessus, Tony Khan est vraiment sur la coche d'aller chercher des tunes comme ça, comme celle de John Moxley. Ça donne un feel complètement différent, un feel de concert plus qu'un feel de show. Et ça, c'est vraiment, vraiment cool. Puis, ben, à la fin, t'as Marco Stunt et Luchasaurus qui sont venus célébrer avec Jungle Boy. Donc, Jungle Boy, Kenny Omega, là, t'as pas besoin de Jungle Boy Gang, là.
Mais non.
Kenny Omega va l'élever à un autre niveau, là. Tu sais, ça, c'est officiel.
Ce match-là l'a élevé à un autre niveau. Ce match-là, Jungle Boy, là, pis je sais qu'il y a des gens qui bitch, Le Jim Ross n'arrête pas de dire Jungle Boy Jack, là. Son nom, c'est Jungle Boy Jack. Moi, j'aime ça qu'on dit Jungle Boy Jack.
Ben, moi, je pense qu'éventuellement, il va falloir, tu sais, Jungle Boy Jack Perry, il va falloir qu'il utilise son nom Jack Perry.
C'est ça,
JR le fait depuis le début de Dynamite.
Oui. Il arrêtait pas de dire que les gens lui donnaient que les gens lui manquaient de respect pour ces affaires-là. Quand il a dit Jungle Boy Jack, là, j'ai fait, oui, c'est un main event. C'est pas un main event, tout, on a c'est Jungle Boy, là.
Tu peux pas t'appeler Jungle Boy pis être la face de la compagnie.
Mais non, tu peux pas, c'est comme si c'est Orange, là. Son nom, c'est pas Freshly Squeeze, là. Il y a un nom avec Orange, là. Orange Cassidy,
ouais.
Là.
Ouais. Ensuite, on a eu Cody Rhodes qui a battu Anthony au go-go. Donc,
c'était pas un bon match, man. Il y avait pas de chimie entre les deux.
Non, il y avait pas de chimie. Mais clairement, au go-go, il était pas prêt pour ce genre de match-là. Tu sais, c'est son premier vrai gros match. En carrière, puis bon, tu sais, sur un pay-per-view, à Dynamite, j'aurais pas eu de problème. Sur pay-per-view, tu t'attends à un niveau de lutte supérieur, et ça l'était pas. Ça a été... Hein?
J'ai vu une photo, c'est écrit « Good guy Randy Orton opened a retirement home in Jacksonville for former WWE superstar. » À partir du début de la pandémie, là, tous ceux qui sont fait attaquer ou disrespect par Randy Orton sont à Dynamite en ce moment. La photo est parfaite.
Donc c'est un match qui a été relativement long. C'est plus de 10 minutes avec Antonio Gogo, là, c'était peut-être trop pour ce que lui pouvait faire. Et puis c'est ça. Puis hey, faut que je te parle. Dynamite vendredi. As-tu vu Dynamite vendredi?
Oui.
Bon. Le weigh-in là, avec Paul White, là.
Hey man, ça là,
hey, combien? combien de temps il a passé à essayer de balancer la balance à Cody? Ça finissait plus.
C'était fâchant parce que t'as une job là, c'est tout ce qu'il a fait à cette journée-là, right?
Oui, oui.
T'as une job là, c'est de t'assurer de savoir comment la machine fucking marche.
C'est tout.
OK? On te demande pas d'aller faire un souplex de la troisième corde. On te demande pas de ring le bell. On te demande pas de nettoyer après que les Young Bucks ont fait leur entrée. On te demande juste de savoir comment la foot machine marche. And you didn't know? God damn!
Ça a été très, très, très compliqué et pas agréable. Et c'était vraiment pas cool. Par contre, c'est ça. C'est pour ça que je te dis que je comprends pas. On en a parlé récemment de comment on appelle ça, un dead spot. C'est le deuxième spot sur un show. Ben c'est ça. Ogogo et Rhodes, c'était ça. C'était le dead spot. Et ils l'ont pas mis à cet endroit-là. Puis je pense que ça aurait été nécessaire de le mettre là. Puis Cody a battu Ogogo. Ce qui était peut-être un petit peu surprenant parce que si tu veux en faire une star puis ils battent pas Cody, mais en même temps c'est Memorial Weekend, tu sais, gagner.
Il aurait été un encore plus gros vilain. Il aurait dû gagner ce match. Le Cody là, il a pas besoin de gagner des matchs là. À part quand tu vas décider de le heat up pour une course vers un championnat certain. Là. Non, il a pas besoin de gagner un match.
Mais il était pas prêt à gagner ce genre de match là non plus.
Il était juste pas prêt à l'être dans ce match là peut-être.
Exact. Ensuite, on nous a montré que Miro avait attaqué Jake the Snake Roberts durant le weigh-in de la veille et que c'était pour ça que Roberts accompagnait pas Lance Archer au match. Et le match, c'était un match de championnat pour le titre TNT. Miro qui a battu Lance Archer. Ça a été mon deuxième match le moins préféré
de
la soirée.
Moi aussi. Il y avait pas de chimie entre les deux, non. Ben, il y avait pas de chimie, pas vrai.
C'était pas mauvais, non.
Il y avait une certaine chimie. Il y avait une certaine chimie, mais c'était pas, le plus gros spot du match, c'est quand il a lancé le sac du serpent, là.
Et à aucun moment, j'ai cru qu'il y avait un vrai serpent là-dedans. C'était beaucoup trop léger.
C'est pas grave. Les fans ont joué leur rôle de fans, OK? Nous, c'est quand là, on embarque dans l'histoire, là, on devient un personnage de l'histoire, là, mais ils sont devenus un personnage de l'histoire. Il y a pas grand monde là qui peut me dire qu'ils savaient qu'il y avait un serpent là-dedans, là, OK? Que AEW, sachant que AEW, comment allait faire de la brutalité animale sur leur show, mais juste le fait qu'on sait qu'habituellement, il y a un serpent là-dedans, oh shit, il a lancé un faux serpent loin, tout le monde a réagi pis c'était parfait.
Oh ouais, je comprends. C'est ça. En fait, ça, on s'éternisera pas sur ce match-là. Ça a été ce que ça a été. On nous a annoncé qu'Al Out revenait à Chicago cette année. La fin de semaine, le dimanche de la fin de semaine de la fête du travail, contrairement au samedi qu'il y avait dans les dernières années. Donc, Al Out qui revient en septembre, mais ils ont aussi officialisé en novembre ce qu'on vous a déjà parlé là, Full Gear. Donc les prochains pay-per-view reviennent sur la route. Championnat du monde féminin des AEW, Dr. Britt Baker, DMD, a battu Hikaru Shida 18 minutes 18 pour devenir la nouvelle championne. Écoute, dès vendredi, là, tu savais que Baker était la favorite.
Ben oui.
Tu savais que à partir du moment que les gens ont crié DMD avec elle vendredi, c'était elle la babyface dans ce match-là. Pas Shida et pas babyface. C'est que Britt Baker, le monde voulait l'avoir gagné le titre, puis il l'aime. Le Britt Baker, c'est un personnage là. Tu sais, des fois quand une heel fait trop bien sa job de heel, ça fait en sorte que des fois la foule, tu sais, va venir par prendre pour elle, prendre pour la personne, parce que la foule aime ce que la personne fait. Mais là, c'est rendu là, Britt Baker. Par contre, le match. Je trouve que le match, ben, à 18 minutes, ça a été long, mais ça, c'est pas ça. Si ça avait été bon de A à Z, ça m'aurait pas dérangé, mais j'ai trouvé qu'il y a eu des longueurs là-dedans. J'ai trouvé qu'à un moment donné, ils ont manqué de coordination, ils ont manqué un peu de chimie. Ça a pas été le match que je m'attendais. Pour moi, Deeb et Rio a été un meilleur match de 100% lutte que ce match-là.
100%.
La fin, par contre, la fin, ils ont livré. Les dernières minutes du match ont vraiment livré. Et parce que, puis il y a eu un paquet de false finish, puis dont Rebel qui est venu pour frapper Shida avec la béquille et qui a finalement frappé Britt Baker, puis tu fais comme, oh non, shit, je peux pas croire qu'ils vont servir de ça pour faire gagner Shida, puis non, c'est un falsiste, puis ça a super bien marché, parce que même moi, j'y ai cru, mais la fin avec Baker qui gagne et la foule qui capote, puis qui s'en va faire un hug à Tony Schiavone, parce que ça, c'est comme la girl à Tony depuis le début. Tout ça, là, c'était parfait. Puis, ça m'a fait oublier que le match, pour moi, il y avait eu quelques ratés. C'est pour ça que je te disais tantôt que, pour moi, c'est pas un des cinq meilleurs matchs de la division féminine de l'histoire des AEW. Par contre, la fin, c'est une des meilleures cinq fins de match de la division féminine. Tu comprends? La fin est venue sauver le reste. T'as rien d'autre à dire? Ou...
Non, je suis d'accord avec toi complètement. Je suis d'accord avec toi complètement.
Parfait. Et le pire, là...
Toutes les secondes de notre vie, même.
Le pire, c'est que je suis pas sûr que c'est de la faute à Britt Baker. Moi, j'ai comme eu l'impression que c'est Shida qui est... On dirait qu'elle avait pas son A-game tout le long du match. En tout cas, moi, de la façon, je l'ai lu. Je peux me tromper, là, évidemment. J'étais pas dans le ring avec elle. Mais Baker, écoute, comme championne, je suis très, très, très satisfait. Puis, bien hâte de voir la suite de tout ça. Darby Allin et Sting.
Hey, qu'est-ce que tu penses qu'ils gagnent à soir?
Là, tu me parles de Toronto-Montréal, j'imagine. Ouais. Ben, écoute.
Comme ça, on va avoir une trace, là. Il est 16h33. On va pouvoir dire soit je te l'avais dit ou pas partout.
J'y vais aucunement avec une analyse de hockey. J'y vais avec mon cœur et je vais y aller avec Montréal 3-2.
Yo.
Mais c'est mon cœur qui parle, tu comprends? Tu sais, c'est
Canadiens, j'aimerais ça que Canadiens de Montréal vont remporter le match 4-1.
Oh.
Mark my damn word.
Ça marche, ça.
Est-ce que si je ne l'ai pas, on va pouvoir dire « Sorry about my damn luck ». Mais je pense qu'elle a dit dans le 4-1.
Est-ce que ton nouveau follower Instagram va compter un but ce soir? Parce que si vous ne savez pas, c'est Kev tout content hier de me texter un screenshot de son compte Instagram parce que le petit partner Cole Caulfield le suit maintenant. Évidemment... Yep. Moi, ce que je fais, c'est que je m'en vais voir l'Instagram de Caulfield, je vais voir qui il suit, et je m'aperçois qu'il suit Kevin et Ludivine, et là, je pars à rire tout seul chez nous, et je retexte ça à Kevin, ben, je dis, c'est quoi les odds qu'ils suivent toi et Ludi? Je comprends toujours pas pourquoi il suit Ludi, remarque, à part qu'elle like à peu près toutes les photos du Canadien de Montréal et de Cole Caulfield, mais j'ai pas vraiment d'autres in, fait, je sais pas si t'as quelque chose à dire là-dessus.
Alors non, mais...
Visiblement pas. OK. Darby Allin et Sting ont battu Scorpio Sky et Ethan Page. C'était le premier match live, là. C'était pas un match cinématographique. Le premier match live de Sting en 6 ans, donc depuis son combat avec Seth Rollins.
Yo, Sting a enlevé son chandail, Sting a pris un pop. Sting a fait le saut, Sting a pris un pop. Genre, Sting est arrivé, là, pis c'était un pop machine. Pop. Sting, là, c'est un popcorn. Pop. Sting était on fire.
Ah, non, écoute, pour un monsieur de 62 ans, il était sur la coche, mais solide. Par contre, là, j'ai vu, là, des vagabonds sur Twitter, pis des vagabonds, là, des gens que je respecte, là, dire qu'il a fait un code red. Il a pas fait de code red.
Ouais, mais c'était ça le move.
Non. C'est une roulade qu'il a faite, là. Il a passé par-dessus, puis il a fait une roulade, là, avec. Il a roulé avec. C'était pas un code red, là. C'était un code roulant. Mais il y avait pas de red dans ce code-là, là. Exagérez pas, là. Non. Mais, je vais te donner le dive, là, qu'il a fait du stage. Mais c'était pas un code red. Tout le monde, c'était, non, calmez-vous. Mais, il a très, très bien performé. Là. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Ça a été, juste à cause de ça, ça a été un bon match. Puis, tu sais, oui, c'est Sting qui a gagné, tu sais, avec le Scorpion Deathlock.
Oui, mais c'était correct.
Mais c'était correct parce que Scorpio Sky et Ethan Page, c'est pas nécessairement, ils étaient pas nécessairement placés là, tu sais, pour Puis je veux dire, une défaite face à Sting, c'est pas ça qui va faire que Sky et Ethan Page ont plus d'avenir à AEW, loin
de là. Le feud qu'on veut voir, c'est Ethan Page contre Darby Allin. Tout le monde sait, c'est ça qu'on veut. Ça va être un main event feud. Je m'excuse là.
Puis ce feud là, c'est Darby Allin qui va le gagner.
Mais oui. Quand le gars il a lancé le patinet dans la foule là.
Oh man, il l'a-tu lancé?
Et avec aucun regard pour Darby là. Il l'a juste lancé.
Avec aucun regard pour la foule qui l'a attrapé, là.
Pour moi, c'est son frère, là.
Mais c'est ça, je te dis, ils ont utilisé beaucoup aussi les workers. Tesha Price, là, je sais, t'as su sur Instagram.
C'est une star.
La caméra aime Tesha Price. Moi, à chaque fois que je la vois, je la texte après pour dire, man, tes faces, c'est comme incroyable comment la caméra te trouve partout ce que t'es.
Non, c'est elle qui trouve la caméra. C'est elle qui trouve la caméra. Parce que c'est quelque chose que je disais à tout le monde. Quand je faisais halt à vrac, mon but, c'était de voler les segments des autres avec mes faces dans le background. Je disais rien, je disais pas un mot dans les chroniques de Rosemary Autumn Témorin. Mais je faisais des faces, et après, on était comme, yo, Kev, il a stole la, puis j'étais comme, damn right.
Ben oui, parce que la caméra va aller te chercher.
Exact.
Si tu fais quelque chose pour que les caméras viennent te chercher, là.
Exact.
Effectivement, absolument. Tu vois, moi, j'ai une autre technique. Moi, je connaissais le photographe au Centre Bell. Puis il m'a dit, hey Pat, j'ai fait salut. Il dit, Pat, reste là, on va prendre une photo. Puis ma photo s'est ramassée sur l'Instagram.
Ouais, je sais, ils l'ont posté, c'est vrai.
Moi, je suis arrivé, puis t'étais sur l'écran géant du Centre Bell. J'ai fait, OK, le patinet me niaise, là. Il me niaise, là. J'arrive, il est sur l'écran, le fucking écran géant, avec Pat Langlois. Je suis là, OK. Le gars, il est rendu ailleurs, là, tu sais. Je t'avais de pouvoir te parler, là. Je serais plus dans ta ligue.
C'était quand même assez fou. Quand j'ai commencé à faire, quand j'ai cut ma promo à la fin de mon affaire, là. Et que foule a commencé. Je t'ai dit, j'ai pris un moment, là. C'est dans mon top 5 de mes moments à vie, là, que la foule s'est emballée, puis j'ai fait, yo, c'est comme ça qu'ils se sentent quand ils cut des promos dans des trucs de lutte, là. Parce que j'ai comme senti une énergie me frapper, là. C'était vraiment nice, là.
Ben oui, absolument. Match de championnat AEW, Kenny Omega qui a conservé son titre en défaisant Orange Cassidy et Pac. Don Callis qui était au commentaire. Mon match de la soirée. Mon match préféré, le meilleur match de la soirée. Pour moi, tu me parlais de 5 étoiles. Pour moi, ça, c'est un match 5 étoiles. Il y a pas 26 minutes en plus, les gars, en fait. Et il y a rien qui a été laissé au hasard et tout est rentré là comme une tonne de briques.
Ouais.
Moi là, quand Orange Cassidy a voulu voler le pin de Kenny Omega sur Pac. Le pin de Pac sur Kenny Omega, j'ai comme fait et que la foule a réagi là puis la foule y a cru là. Pis c'était un falsé, comme fait OK, ils ont trouvé comment faire. Tu sais, ils contrôlent la foule. Ils savent très, très bien où ce qu'ils s'en vont avec ça.
Ils ont réussi à nous faire croire que Orange Cassidy pouvait remporter ce match-là.
Absolument. Bryce Remsburg, là, l'arbitre du combat, là, il avait posté sur Instagram une photo de lui et d'Orange Cassidy en 2008.
Wow.
Je vais t'envoyer la photo, là. Premièrement, tu reconnais pas Orange Cassidy. Et, tu sais, c'est un genre d'hommage parce qu'il disait, tu sais, personne à ce moment-là comprenait le personnage qu'il essayait de faire. Puis, tu sais, il a jamais lâché, tu sais, puis là, il va se battre, tu sais, contre Kenny Omega. C'était vraiment, vraiment cool. Puis, j'étais content après ça, après avoir lu ça, de savoir que, c'était lui l'arbitre du combat, tu sais.
Avant que tu continues. Oui. Interlude musical.
Découvrez le nouveau café érable Pacan de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Je suis pas sûr que c'est ça que t'allais. C'est là que t'allais. je viens t'envoyer la photo que je te parlais. Ah, regarde, là, c'est comme le gars, là, il se ressemble pas, là. Puis, donc, c'est ça. Fait que le match, il est livré, là. Ah, tu viens de voir la photo, hein? Yeah. C'est débile, hein?
Orange Cassidy, il a l'air d'un gars qui...
Il a l'air d'un fan. C'est pas trompant, là.
Ouais, Orange Cassidy, c'est ça.
Trouvez Bryce Remsburg là sur Instagram son handle c'est The Bryce The Bryce is... C'est quoi? Ah oui, The Bryce is often right. Avant, c'était The Bryce is right, puis il l'a changé pour The Bryce is often right. Incredible. Fait que allez voir ça, puis vous allez voir de quoi on parle. Mais pour vrai, le match, super, super bon match à tous les niveaux. Tout le monde a livré. Pac, là, il a livré une grosse performance dans ce match. Je me demande si Pac a pas été meilleur qu'Omega dans ce match-là. Tellement qu'il a été solide du début à la fin. Puis, tu sais, Cassidy a pu faire toutes ces shit à lui.
Puis ils ont tout fait du sens pendant qu'ils ont fait. T'sais, c'était pas genre bad comedy. Maintenant, mon seul point négatif du match.
Oui.
So, Pac a une tête dure as fuck. Quatre coups de belt, puis trois coups de belt, puis le patinet s'est quand même levé.
Ouais. Effectivement. Il aurait pu avoir un coup de belt ou deux de moins.
Il aurait pu donner un à Pac, un à Cassidy, un autre à Pac, un autre à Cassidy, Pac kick out.
C'est dans ce match-là, là, je te parlais plus tôt, c'est dans ce match-là qu'il y avait qu'Omega, je pense, avait lancé la belt, puis que Bryce s'est reviré, et qu'il a clairement vu Omega lancer la ceinture, mais il l'avait pas vu la frapper avec, là, c'est dans ce match-là. Évidemment, il y a eu le ref bump avec Bryce, et puis c'est Aubrey Edwards qui est venu faire le compte de 3 à la fin pour qu'Omega. Puis Omega a battu Orange Cassidy et ça dérange pas. Parce que Orange Cassidy, là,
il
était déjà over, puis ce match-là va l'avoir amené à un autre niveau. Parce que là, on a découvert un gars qui, avec les bonnes personnes, là, peut avoir match of the night n'importe quel soir. Et c'est pas juste un prop comedian. Tu sais, c'est quelque chose qui est... Tu sais, il a sa place dans la compagnie. Il a sa place dans des matchs comme ça. Puis moi, j'ai adoré ça. Tu sais, fait que souvent, tu sais, on entend à AEW, ah oui, mais ils vont chercher des vieux de la WWE. Hey, regardez comment ils ont mis over MJF, comment ils ont mis over Darby Allin, comment ils ont mis over Sammy Guevara. Comment ils sont en train, mais Sammy Guevara n'a pas encore atteint le niveau des autres, mais c'est le prochain, là, c'est Sammy Guevara.
C'est lui qui a closé le pay-per-view, là. C'est quand même énorme.
C'est quand même lui qui a closé le pay-per-view, t'as raison. Comment est-ce qu'ils mettent over Jungle Boy? Donc, tu sais, à quelque part, là, c'est pas juste les anciens WWE, là, ils sont pas là pour venir voler le show de ces jeunes-là, ou en tout cas, ça les empêche pas de monter, ces jeunes-là. Puis c'est ça l'important. Puis c'est ça que la WWE, des fois, a de la misère, ben pas des fois, mais a de la misère à faire, point. Parlant d'anciens WWE, la rumeur avait circulé comme quoi il y avait justement un ancien, un Hall of Famer qui était pour être annoncé. Et on nous a annoncé l'arrivée de Mark Henry, qui va être analyste à Rampage et qui va également être coach en arrière-scène. Qu'est-ce que tu as pensé de cette annonce?
J'ai adoré ça. Mark Henry, il trouve du talent comme je trouve des chips sous mes chandails dans les cracks de mon divan. Là. Mark Henry, là, c'est celui qui a trouvé Cargill, c'est lui qui a trouvé Bianca Belair.
Femme de ménage passe pas souvent de bord.
Là. Ah, Elisabeth est bonne. Elisabeth, c'est une queen. Mais non, man, c'est très, très bon. Puis j'ai hâte de l'entendre à Busted Open. Tu sais, je l'ai écouté à Busted Open, puis c'est un de ceux que j'étais le plus souvent d'accord avec ses analyses. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'il va donner. Maintenant, comme analyste à Rampage, il va falloir qu'il change son flow. Parce que Mark Henry a un flow de chiller. Ouais. Tu sais, quand il parle, là, c'est un chiller. Il va falloir qu'il change ça, mais bon.
Mais en même temps, je sais pas encore, tu sais, est-ce que ça, vu que ça va être un show télé, est-ce que ça va être un three-man boot? Est-ce qu'ils vont être trois? S'ils sont trois, son flow va être un peu moins pire parce que les deux autres vont...
S'ils sont trois, c'est différent.
Ouais, c'est ça, exactement. Donc, ça reste à voir, mais le fait d'avoir Mark Henry dans la compagnie, jusqu'à un certain niveau, je trouve que c'est une signature plus importante que Big Show. C'est un nom qui est moins connu, mais c'est moins connu de Big Show, ce que je veux dire, mais c'est quelqu'un qui va porter bien des chapeaux dans la compagnie. Autant backstage que, comme tu le disais, pour le recrutement de nouvelles stars et tout ça. Donc, c'est quelqu'un qui va être très, très, très important. Puis, ben moi, ce qui me surprend de tout ça, c'est crime. Tous ces gars-là, là, ils s'en vont à AEW, là, comme si la WWE, là, ça... Tu comprends? C'est des gars qui ont été là pendant 20 ans là, avec la WWE. Et ils s'en vont à AEW comme si de rien n'était.
Oui, mais WWE, t'es rendu à un certain âge, tu rentres dans une bracket où on manque de respect.
Ouais.
Et les gens, ils veulent aller chercher le respect.
Exact. Exact. Et la foule a bien réagi à Mark Henry. Tu sais, on a vu Big Show sans foule. Je suis content parce que là, Mark Henry, lui, il a eu la grosse réaction. Tu sais, donc la foule a bien réagi. Il va être à Dynamite cette semaine, donc on va pouvoir voir ça. Et la finale, Inner Circle, qui a battu Pinnacle dans un Stadium Stampede. Match qui a duré un petit peu plus de 30 minutes. Bon. Il y a eu deux étapes à ce match-là. Il y a eu l'étape du match qui était déjà tapé, qui a été tapé sur quelques journées dans le stade des Jaguars. Et tu as eu la fin qui a été live devant public. Et ça, c'est ce que j'espérais.
Ben oui.
Je me disais, je peux pas croire qu'ils vont juste faire un match cinématographique. Il y a une foule pour la première fois sur un pay-per-view d'AEW en plus d'un an. Tu peux pas finir le show en cinématographique. Et ce que j'ai aimé là-dedans, c'est qu'il faut que tu coordonnes tes affaires, là. Parce que MJF saignait avant, il saignait dans le bout qui avait déjà été tourné. Fait qu'il fallait qu'il saigne encore dans le bout,
ouais, mais
dans le bout live.
Il y avait des très grosses lacunes dans la partie pre-tape, là. Énormes lacunes. Et au point
que
je me disais, je ne peux pas croire que ça a été, qu'il y a personne. Puis je comprends qu'à un certain point, tu fais comme, yo, c'est pas grave, il y a personne qui va s'en rendre compte. Moi, je me suis rendu compte, j'étais mal. Mais j'ai apprécié le match.
So, quel genre de lacune?
Avant ça, c'est le gars de John Wick, là, le stuntman de John Wick, qui est celui qui s'occupe des stunts de John Wick, qui s'occupait du Stadium Temple. Bon.
Ils ont été chercher quand même des gens, là, habitués de faire, tu sais, des setups de Hollywood, de stunts et tout ça, là, absolument. Ouais.
OK. So, quand ils sont descendus à rappel, là, il était dans l'end zone. Où il y a le scoreboard, il était dans l'end zone. Dans la zone des buts, il y avait le feu. Il y avait pas de fumée quand les gens, quand il y a une cote après que là, il avance, il y avait pas de fumée, là, juste là, comme, il aurait pu laisser la fumée, il se rend par là, c'est la fumée. Parce que c'est un bébé détail. Fait que là, tu vois les gars avancer vers MJF. MJF a peur, ça va vers son auto. Par la suite, la cote d'après, tu vois Inner Circle descendre des estrades. Mais il était déjà sur le court. Comment ils ont fait pour descendre les estrades? Fait que c'est juste un raccord qu'ils ont manqué, là. Ils ont fait, OK. La limousine de MJF était, je pense, était, mettons, au 30 yard line. C'est pour ça qu'il a couru, c'est ça qu'on l'a vu vraiment courir vers la limousine. Quand ils ont descendu des escaliers, elle était rendue presque dans la zone début. Mais tout ça, là, c'est genre 6 frames back-à-back-à-back, là. J'ai comme, mais y a personne qui a vu ça? Y a personne qui a fait que ça faisait aucun sens? Je comprends, c'est de la lutte, on fait pas un film. Je comprends.
Mais je te comprends, parce que moi, quand j'écoute un film ou une série, et mettons que la personne prend une gorgée de bière et que, mettons, la bière est au corps, puis que la shot tout de suite d'après, il reprend une gorgée de bière, puis la bière est rendue à moitié, j'étais comme... Moi, ça me gosse parce que comme crime, il l'a pas rempli sa bière, là, il s'est passé une demi-seconde entre les deux frames, puis ça me gosse quand je vois ça.
Ouais.
Je te comprends tellement quand tu t'en aperçois. Il faut que tu le vois, il faut que tu portes attention. Mais une fois que tu le vois, tu fais juste voir ça. T'sais.
Autre chose, le succès de l'Old Stadium Stampede, il y avait une petite trame en arrière. Là. Je dis pas qu'il y avait de la musique constamment, mais il y avait un petit quelque chose derrière. Là. Tu vois, ils ont fait du gros montage puis ils nous l'ont présenté. Là, il y avait rien. Il y avait pas de son. C'était juste des coups. Puis j'étais comme, mais on pouvait pas rajouter du monde qui crie. On pouvait pas, le bouton pour faire crier le monde, là, ça aurait été là qu'il aurait fallu qu'on
le... On les entendait un peu, la foule. Ouais, sur certaines manœuvres, la foule, le live crowd, on l'entendait.
Mais pas tant que ça, tu sais. On l'entendait en bruit de fond. Genre, ouais. Crank le son, man. Vas-y, all out. Je m'en fous qu'on n'entend pas leur one-liner, là. Il y en avait une couple de bonnes, mais au point qu'on n'entend rien pis que c'est pendant 24 minutes, c'est en flat zone. J'ai aimé l'intégration d'Urban Meyer. Oui. J'ai aimé
Urban
ça.
Urban Myers et Charlie. ouais, il y avait l'autre, comment il s'appelait? Charlie quelque chose.
Je sais pas.
Moi, Charlie Strong.
J'ai vu Urban Myers.
Charlie Strong qui est avec Urban Meyer, ouais, qui est le l'assistant head coach.
J'ai aimé Conan.
Ah, Conan comme DJ, j'ai pop. Quand ils ont fait le zoom, ouais, sur Conan, j'ai fait oh shit, DJ Conan, j'ai trouvé ça drôle.
Ce que, puis tu sais, encore là, c'est des petits détails, puis je veux pas que les gens aient dit Kev, il a pas aimé le match, j'ai adoré le match, j'ai adoré le Stadium Stampede. Sauf quand là, les gars rentrent puis ils pètent des bouteilles là, il y a du monde qui restait assis à se parler jusqu'à ce qu'ils reçoivent leur bump.
Ouais, ça, j'ai trouvé ça ordinaire. Ouais.
Fait que, tu sais, tu fais comme, quelqu'un pète une bouteille, tu te lèves, tu cours ou tu t'en vas confronter la personne, mais tu restes pas assis à continuer ta conversation comme si de rien n'était, là, à moins que, bon.
Encore là, tu vois, moi, c'est le genre de match un peu comme Baker et Shida. C'est-à-dire que tout au long du match, j'étais pas tant investi dans le match. Quelques pops, tu sais, ici, à droite, à gauche. Tu sais, j'ai aimé quand c'était Sammy Guevara qui contrôlait le kart au lieu de celui qui se faisait courir après par un kart. Mais la fin est venue comme sauver, je trouve, le reste du match, parce que la fin, c'est un feel good moment. Tu sais, c'est Guevara qui prend le pin, c'est Judas qui joue, c'est la foule qui chante à tue-tête. Fait, tu sais, ils ont fini ça d'une bonne façon. Si les Hills avaient gagné, ça aurait été probablement différent, tu sais. Mais ça a pas été mon match préféré. Puis je peux, tu sais, est-ce que j'ai aimé le match? Je sais même pas si j'ai aimé le match. J'ai aimé la fin du match. J'ai trouvé ça long tout au long du match, mais j'ai aimé la fin. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je disais tantôt, tu sais, somme toute.
J'ai pas aimé la fin.
T'as pas aimé la fin?
J'ai aimé la fin. Mais, okay, ils auraient pu faire ça mieux. Parce que le Stadium Stampede, l'année passée, c'était tout le monde de leur bord, puis on se rejoint pour au moins la finale. Tu sais, tout le monde vit ses affaires, puis on se rejoint. Là, il y a aucun Inner Circle nulle part. Il y a aucun Pinnacle. Il reste juste Guevara et Spear. Je suis d'accord qu'on met l'enfant sur Guevara et Spear.
Oui,
mais
exact.
Si on pouvait avoir les autres petits patinets qui se battent autour du ring, un petit quelque chose. Là, ils ont gagné, puis on a vu Chris Jericho puis les boys arriver en courant vers Guevara. J'aurais aimé ça, moi, juste voir t'sais, la réaction de tout le monde quand il y a le 1, 2, 3. Tu sais, comme le gros pop de tous ceux qui sont dans ce, ouais, match-là.
Ça m'a pas dérangé parce que je trouvais que ça l'a mis l'emphase sur Guevara et sur la foule. C'était à la foule de réagir sur le 1, 2, 3. C'était pas au lutteur de réagir.
Non, je sais, mais c'est quand même important. J'aurais trouvé ça important de voir. C'est une affaire d'équipe. Juste les avoir autour du ring. Pas obligé de les avoir dans le ring. On peut laisser les deux patnais se battre un contre l'autre. Là. Okay, peut-être que son layout, tout le monde autour du ring. Mais juste 1, 2, 3, on gagne. Puis tout le monde est là. C'est un petit détail que j'aurais apprécié beaucoup. Mais pour moi, c'était un excellent match quand même.
Alors moi, je pourrais pas dire que c'est un excellent match. Moi, probablement que...
OK, t'as raison.
Après Ogogo, Cody, puis après Miro et Archer, c'est ce match-là, là, si j'avais à classer les matchs.
OK, attends. Je vais pas dire que c'est un excellent match. C'est un excellent effort. Pour réaliser ce qu'ils ont fait. Je veux dire ça comme
absolument,
ça.
Absolument. Ils ont fait un gros effort. Puis la fin, comme je te dis, pour moi, la fin est venue sauver parce que c'est Guevara avec son 630. Puis bon, Judas qui joue. Puis tu sais, ça a bien fini le show comme tel. Fait que tu sais, les gens sont quand même partis heureux à la maison. Tu sais, ils sont pas partis en voyant une double disqualification avec le Fiend qui se fait prendre en feu.
Il y a un monsieur, il vient de donner 10 000 $ à la Classic Car. Crazy shit.
Ben voyons.
Crazy shit.
Pourquoi? Qu'est-ce qu'il va avoir en retour?
Man, ce monsieur-là, il nous donne depuis jour 1. Puis ah, okay. Là, c'est fou. Il n'a jamais fait un aussi gros don. Le respect.
Ben, on le remercie puis on le salue absolument. Tu peux toujours pas dire la date de la classique.
Oui, on peut. Je me suis échappé sur le podcast avec Elisabeth Giga. Fait que 7 août prochain, on se fait un très. J'ai étudié, c'était 7 août?
Oui, tu m'avais dit que c'était le 7 août. 7 août prochain.
7 août prochain.
Samedi.
Ouais. Les billets sont pas encore en vente. Ils vont être en vente dans les prochains jours, là. Je veux juste m'assurer qu'on est, ça va être à Boisbriand.
Comme l'année passée.
Ouais, comme l'année passée. Je veux juste, hey man, on est rendu à 16 000 $ sur 25 000 notre objectif. That's fucking
crazy.
C'est
bon, ça. C'est bon, ça.
Donc, c'est ça. Je veux juste m'assurer parce que bon, rapidement, là, mon enjeu, c'est que, on a droit à jusqu'à 2500 personnes dans l'aréna, des pods de 250.
Ouais.
Donc, mais moi, personnellement, je veux pas être en charge de 2500 personnes. Donc, là, faut juste déterminer à combien de billets on ouvre. Je suis à l'aise d'être en charge à 1000. Je suis à l'aise d'être en charge peut-être à 1250. Mais 2500 personnes, c'est énormément de gens à, même si les gens de la classique sont tout le temps fins, ils sont là pour les bonnes raisons. Mais quand même, c'est quand même des, tu sais, j'ai parlé aux agents de sécurité au chef des agents de sécurité du Canadien de Montréal. Puis, tu sais, il m'a dit ça s'est super bien passé, Kev. Mais il y a eu quelques récalcitrants qu'il a fallu qu'on régulate. J'ai pas besoin de régulate personne dans la classique KR. Donc, j'ai eu une bonne discussion avec lui. Puis, ça fait en sorte que là, faut juste que je m'assoie puis je décide combien de billets on ouvre. Mais, peut-être que...
Tu peux l'engager, lui, pour la classique?
Écoute, on est en train de regarder, voir si on peut engager quelqu'un, là. On est en train de regarder ça, là. Il y a des gens qui veulent nous aider. Donc,
parce que... Ou tu pourras faire affaire avec une agence de sécurité aussi, tu sais.
Mais parce que l'affaire, c'est qu'on veut donner le plus gros don possible. Fait qu'il faut juste pas qu'il y ait d'argent qui sorte. Mais on a quelqu'un qui nous a un commanditaire qui va nous donner des sous, mais qui a aussi un contact quelconque qui est en train de regarder ça. Si ce contact là, on y va, parce que c'est pas des bénévoles, il y a des gens qui vont me dire qu'avant je veux être bénévole pour faire ça. C'est pas des bénévoles qu'on veut, on veut des monstres. OK? On veut des monstres qui dit mets ton foot masque si tu as besoin de mettre ton masque parce que c'est pas moi qui vais le faire. Donc c'est ça.
Cette semaine à Dynamite va avoir lieu vendredi, encore une fois, donc vendredi le 4 juin. Ah d'ailleurs, vendredi passé, les codes d'écoute sont pas encore sortis, ils vont sortir uniquement mardi, donc là, vous savez, on tourne le lundi. Mais selon Dave Meltzer, selon les ce qu'il a pu avoir comme information, les codes d'écoute auraient baissé d'environ là 38%.
Oui, oui, oui.
Mais mettons, là, c'est un petit peu moins pire qu'ils pensent, mais c'est une trentaine de pourcents. Ça voudrait dire, là, que on parle de entre 5 et 600 000 de codes d'écoute.
Ouais, mais, guys, oubliez pas,
vendredi à 10h. À 22h.
C'est ça.
Exactement.
Mais c'est quand même bon, vendredi à 22h, là. Pour une chaîne comme TNT, là.
Et ça te donne aussi peut-être un avant-goût de à quoi Rampage pourrait avoir comme code d'écoute, parce que ça va être ça la case horaire de Rampage. Aussi au niveau de Double or Nothing, les achats pay-per-view, ce qu'il avait vendu avant la journée du pay-per-view, il était en avance sur le dernier pay-per-view qui a fait des records là, pour AEW. Par contre, le streaming, ils en ont vendu moins au final. Mais bon, c'est des chiffres préliminaires pour l'instant. Ce qui voudrait dire qu'au final, il y aurait probablement... C'est de loin supérieur à la moyenne des AEW, mais ça battrait peut-être pas le dernier pay-per-view. Ce qui est un peu normal, parce que là, il y a un déconfinement partout aussi aux États-Unis, ce qui fait en sorte que si au dernier pay-per-view, il y avait 4 personnes qui voulaient l'écouter, il fallait qu'ils la jettent les 4. Là, ces 4 personnes-là, ils sont peut-être regroupés chez un. Puis là, ils l'ont acheté juste une fois. Donc, c'est peut-être là, ça fait une différence. Cette semaine à Dynamite, on va avoir, je l'ai ici, les Young Bucks qui vont affronter Pac et Penta de Triangle. On va avoir Cody Rhodes et Lee Johnson qui vont affronter QT Marshall et Anthony Ogogo. Et puis, on va avoir Dustin Rhodes qui va affronter Nick Comoroto dans un Bull Rope match. Est-ce que c'est tout? On va avoir la présence de Mark Henry, évidemment. Et puis, Britt Baker qui va célébrer son championnat. Et dans 2 semaines, donc pas le 4 juin, mais la semaine d'après qui va être un mercredi, là, qui va être mercredi le 9 juin, Jungle Boy contre Kenny Omega. Donc ça, c'est le match que vous voulez pas manquer. Kev, juste avant de quitter, dire qu'à partir de depuis ce matin, j'ai une chronique qui est sortie sur le tvasport.ca parce que aujourd'hui, on est le 1er juin. Vous nous écoutez, on est mardi le 1er juin et il y a exactement 50 ans, le 1er juin 1971, C'était le tout premier match du géant ferré d'André the Giant en Amérique du Nord. Donc, ça se passait à l'Auditorium de Verdun. Il luttait contre Cowboy Jones, à qui j'avais parlé pour le livre et à qui j'ai reparlé pour l'article. On célèbre les 50 ans du premier match du géant ferré en Amérique du Nord, c'est à l'Auditorium de Verdun. Donc, j'ai un article sur le tvsport.ca et aussi la deuxième partie de l'article sur Deepak Masan, dont on a parlé la semaine dernière, qui est décédé. Donc, vous allez pouvoir aller voir ça sur le tvsport.ca.
Mais yo, c'est tout.
On peut nous écouter où?
Oh shit. Google Podcast, TVA Sport, TVT Cube, Spotify, Apple Podcast. C'est nous 5 Star Fox Splash. C'est nous des commentaires. Abonnez-vous à Sans Restriction, la page Instagram. On est rendu à 5100 followers, ce qui est énorme. C'est plus que certains humoristes la relève. On est rendu, acheter le livre Pat Laprade. Non, c'est pas Pat Laprade, le nom du livre. C'est 8e merveille du monde, fait par Pat Laprade. Très bien, je vais commencer à le mettre dans mon truc. Nouveau chandail, ça s'en vient. Ce mercredi, on va l'annoncer.
Plus de détails ce jeudi aux Antipodes. Ouais. C'est la version estivale, donc c'était le dernier podcast du mardi. On va essayer de vous faire des extras durant l'été. On vous promet rien. On veut aussi se reposer puis profiter aussi du déconfinement. Nous aussi, on en a besoin. Tout le monde en a besoin, mais le jeudi, ça va toujours demeurer la version 1 heure, la version estivale avec nos coups de cœur, notre disclaimer, peut-être quelques questions, puis on va avoir ce jeudi déconfinement, mais il y a deux, vous voulez pas manquer ça, et une annonce pour le prochain t-shirt des Antipodes. Donc, en mon nom, Pat Laprade, et au nom de Kevin Raphaël, on vous remercie d'avoir été là, et on vous dit à jeudi, c'est un rendez-vous!